Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est là encore une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. J'exécutai de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantai des vignes, je me vis des jardins et des vergers, et j'y plantai des arbres à fruits de toute espèce. Je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetai des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédai des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassai de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurai des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est la part qui m'en est revenue. Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil.
Je pense qu'il n'est pas nécessaire de démontrer que la vanité est une des notions fondamentales du livre de l'Ecclésiaste. Surtout après la lecture qui vient de vous être faite. Le mot lui-même de vanité est employé 35 fois par l'auteur, et c'est un mot caractéristique de cet écrit, puisque le livre de l'Ecclésiaste totalise à lui seul la moitié des emplois de ce mot dans toute la Bible. Nous l'avons vu dimanche soir, le livre est encadré par cette affirmation « Vanité des vanités », dit l'Ecclésiaste, dit Coëlette, « Tout est vanité ». Et cette phrase constitue en quelque sorte le thème fondamental de l'écrit, la thèse de l'auteur, « Vanité des vanités », dit Coëlette, c'est sa thèse qui va être développée tout au long du livre, entre les deux affirmations de la thèse au début et à la fin du livre. Colette ne se contente pas d'affirmer que tout est vanité, mais il s'emploie à repérer dans l'existence humaine toutes les manifestations de cette vanité. Et l'on retrouve fréquemment sous sa plume l'expression « ceci est vanité ». Cela encore est vanité, une expression qui revient 15 fois pour dénoter des aspects particuliers de la vanité dans l'expérience humaine. Nous allons essayer de suivre son enquête et de découvrir avec lui tout ce qui, dans l'expérience humaine, est frappé par la vanité. Mais avant cela, il nous faut peut-être essayer de déterminer ce qu'il veut dire par vanité, quel est le sens de ce mot qu'il emploie si souvent. Ce mot qui a été traduit par second, qui est traduit dans la plupart des versions par vanité, est un mot qui, dans tout l'Ancien Testament, n'est, à mon avis, jamais employé au sens propre, mais toujours au sens figuré. Et si l'on veut essayer de découvrir un sens propre à ce mot, il faut s'aider de la comparaison avec des langues sémitiques voisines. Et dans d'autres langues, les mots de qui s'apparentent à ce mot hébreu « evel » peuvent désigner la vapeur, la poussière ou le vent. Lorsque nous considérons l'emploi de ce terme dans l'Ancien Testament, indépendamment du livre de l'Ecclésiaste, nous pouvons constater que ce mot désigne fréquemment la vie humaine, en particulier dans le psaume 39, qui parle de la fragilité de l'existence de l'homme. Le mot est employé 3 fois. Au verset 6, « Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est que evel. » Il était traduit par second, n'est qu'un souffle. Au verset 7, « L'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement, il s'agite en evel, en vanité. » Et également encore au verset 12, « Oui, tout homme n'est que evel », traduit par « tout homme n'est qu'un souffle ». Dans le livre des Proverbes, au chapitre 31 et au verset 30, le mot dépeint la beauté. La beauté est vaine. Dans tous ces cas, et dans d'autres que je ne cite pas, le mot désigne des choses fugitives, passagères, non pas le néant. La vie humaine n'est pas néant, elle existe. La beauté n'est pas néant, elle existe, c'est bien une réalité. Mais ce sont des réalités fugitives, passagères. Un autre usage très fréquent de ce mot dans l'Ancien Testament, en dehors de Coëlette, est celui où le mot désigne les idoles. D'une manière assez courante dans l'Ancien Testament, les idoles sont appelées vanité, sont appelées evel. En particulier dans le livre du Deutéronome, dans le livre des Rois, dans le livre du prophète Jérémie et aussi dans le livre du prophète Jonas. Évidemment, en ce qui concerne les idoles, elles ne sont pas seulement passagères, mais il nous faut dire avec l'ensemble de l'Écriture qu'elles sont néant, qu'elles n'existent pas. Mais est-ce cette idée de néant que le mot véhicule, que le mot evel véhicule en rapport avec les idoles? Il me semble que c'est plutôt l'idée d'inutilité. Car fréquemment, le mot evel, vanité, peut désigner ce qui n'est d'aucune utilité. Il est appliqué à des secours, à des conseils. Par exemple, Job désigne ainsi les conseils de ses amis. Ils ne sont que vanité, ils sont inutiles. Et c'est également ainsi que Ésaïe décrit l'aide de l'Égypte au chapitre 30 et au verset 7. Cette aide est vanité. Et c'est bien dans ce sens-là que Jérémie qualifie l'idolâtrie. Jérémie, chapitre 10. Verset 3, « Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. » On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, etc. Au verset 8, « Tous ensemble, ils sont stupides et insensés, leur science n'est que vanité, c'est du bois. » Et au verset 15, « Elles sont une chose de néant, c'est-à-dire de vanité, une œuvre de tromperie. » Et l'apôtre Jérémie précise au verset 5 que c'est bien l'idée d'inutilité qu'il veut souligner. Ne les craignez pas, ils ne sauraient faire aucun mal, ils sont incapables de faire du bien. Donc, me semble-t-il, c'est les deux notions qui se dégagent de ce mot Evel dans le reste de l'Ancien Testament. Sont la fragilité, la fugacité et l'inutilité. Est-ce bien dans ce sens que Qohelet emploie le mot ? Je crois que cela est confirmé par d'autres expressions de l'Ecclésiaste qui vont bien dans ce sens. D'abord l'expression « poursuite du vent » qui indique bien une activité sans résultat. Le vent n'est pas néant. Le vent, ce n'est pas du non-être, ce n'est pas rien, c'est quelque chose, mais c'est quelque chose que l'on ne peut pas saisir, que l'on ne peut pas attraper, que l'on ne peut pas conduire, que l'on ne peut pas mener paître, comme le dit l'expression dans son sens littéral. Ce n'est pâture de vent, c'est-à-dire capacité de faire paître le vent comme on fait paître des moutons. Un autre terme qui est employé par Qohelet, c'est celui de profit, en hébreu yitron, qui est employé 10 fois. Et le profit, le yitron, c'est ce qui reste, le bénéfice de toutes les activités de l'homme. Et c'est, si l'on veut, la notion symétrique de la vanité. S'il y a profit, il n'y a pas vanité. Et s'il y a vanité, il n'y a pas profit. L'enchaînement des idées le montre entre le verset 2 et le verset 3. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Quel avantage, quel profit l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Tout le livre, donc, dans son ensemble, peut être considéré comme une quête de ce profit. Le profit ultime de l'homme, une quête qui est déjà sans espoir, puisque dès le début, Qohelet a affirmé « tout est vanité ». Cette quête, nous allons l'entreprendre à la suite de Qohelet, en essayant de délimiter trois domaines de l'expérience humaine, le travail et la richesse, la sagesse, et dans la sagesse nous inclurons aussi l'activité politique, et en fin de compte, la religion. Le travail est le type même d'activité qui devrait produire un résultat. Et il en produit un. Salomon ne pourrait le nier, lui qui a tant travaillé, tant bâti, tant organisé. Cette expérience de Qohelet comme travailleur, comme organisateur, comme bâtisseur, est décrite au début du chapitre 2. Salomon est le symbole de la réussite. J'ai dit dimanche soir que Salomon avait raté sa vie, c'est beaucoup dire, car l'échec de Salomon n'est pas l'échec de quelqu'un qui a raté, mais l'échec de quelqu'un qui a réussi, ce qui est beaucoup plus grave. Salomon est le symbole de la réussite, du travail accompli, du travail bien accompli. C'est le symbole de celui qui peut profiter pleinement de tout le travail qu'il a réalisé. David a beaucoup lutté pour constituer le royaume, pour inspirer le respect au peuple voisin, et Salomon est celui qui a pu tirer tous les bénéfices de l'œuvre difficile de son père. Il a pu jouir de son travail grâce à sa sagesse, à son sens de la justice et de l'organisation. Et même, il a pris plaisir à son travail. Mais la conclusion ultime est négative. Verset 11 du chapitre 2. J'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Le verdict tombe froidement, sans explication, sans justification, mais tout le poids de l'affirmation provient de la personne qui la livre comme un aveu, comme un constat d'échec. Tout cela ne procure aucun avantage. Par la suite, Qohélète va expliciter son jugement et va nous montrer comment se manifeste la vanité dans le travail. Pour essayer de regrouper ces idées, je dirais d'abord que la vanité se manifeste par des résultats fragiles. Les résultats du travail de l'homme sont toujours fragiles. La première pensée que livre Qohélète en rapport avec son travail, c'est la pensée de son successeur. Après avoir fourni cet effort remarquable, il faudra qu'il laisse le produit de son travail à un successeur. Verset 18 du chapitre 2. Je devrais laisser la jouissance de ce travail à l'homme qui me succédera, et qui sait s'il sera sage ou insensé, cependant il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité, et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir. Quand on prend goût à son travail, quand on y met tout son cœur, toute sa peine, c'est une déception amère, déception profonde. Et Qohélète l'exprime par une phrase très forte, « J'ai haï tout le travail », verset 18, « J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. » Voilà les malheurs et le chagrin de celui qui doit laisser son travail à un successeur. Mais quant à celui qui n'a pas de successeur, c'est encore pire. Chapitre 4, verset 7 et verset 8. Un homme qui travaille, qui n'a pas de fils, qui n'a pas de successeur. Et Qohélète l'amène à se poser cette question. Mais pour qui est-ce que je travaille? Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Et sans aller jusqu'à penser à un successeur, même pendant sa vie, on peut être privé du fruit de son travail. Chapitre 5, verset 12. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Ces richesses se perdent par quelque événement fâcheux. On est toujours à la merci d'un événement fâcheux. Chapitre 6, verset 1 à 6 également. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil. Il y a tel homme à qui Dieu a donné des richesses et qui ne manque pour son âme de rien de ce qu'il désire, mais Dieu ne le laisse pas maître d'en jouir. C'est un autre qui en jouira. C'est là une vanité et un mal grave. Et sans même qu'un événement fâcheux n'intervienne pour priver l'homme du fruit de son travail, la vanité se manifeste et la fragilité de son travail se manifeste pour le riche par le fait que tous les biens qu'il acquiert sont dépensés. Chapitre 5, verset 10. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Pour toutes ces raisons, l'homme ne retire pas de son travail la satisfaction qu'il pourrait en attendre. Certes, il y a des sujets de satisfaction dans le travail. Coëlette a dit « J'ai pris plaisir à tout mon travail et c'est la part qui m'en est revenue. » Mais tôt ou tard, la vanité du travail apparaît dans la fragilité des résultats que l'on a cru obtenir. La vanité dans le travail apparaît aussi dans les motifs qui poussent l'homme à travailler. Un de ces motifs, c'est la jalousie. Chapitre 4, verset 4. « J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. » C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Autre motivation dans le travail, le désir de posséder, chapitre 5, verset 9. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Ce désir incessant de posséder toujours davantage n'est jamais satisfait. Ainsi, le travail apparaît à Coëlette profondément décevant, à la fois dans ses résultats et dans ses motivations profondes. D'ailleurs, il marque cette déception par son vocabulaire. Il désigne le travail par le mot « amal », qui en hébreu désigne la peine, et qui insiste donc sur le caractère pénible, éprouvant, difficile du travail. Et ainsi Coëlette plaint ou critique celui qui place tout son espoir et toute sa confiance dans le travail. Il est vraiment stupide de se tuer au travail. Mais, attendez pour applaudir. Mais ce n'est pas une raison pour rester ou pour devenir paresseux. Chapitre 4, verset 5. L'insensé se croise les mains et mange sa propre chair. Donc la paresse est autodestructrice. Coëlette semble plutôt envier une sorte de modération dans le travail et dans les richesses plutôt que l'oisiveté qu'il réprouve. Au chapitre 4 et au verset 6, il parle d'une main pleine avec du repos, plutôt que de deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. Mais cette main pleine avec repos, c'est le symbole d'une activité raisonnable. Nous le voyons aussi au chapitre 5 et au verset 11. Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. D'ailleurs, Coëlette admet une certaine satisfaction dans le travail en commun, chapitre 4, verset 9. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Il nous faut rappeler aussi ce que nous avons signalé à propos de l'expérience de Salomon, c'est-à-dire qu'il a pris plaisir au travail qu'il a accompli et que c'est là la part qui lui en est revenue. Ainsi, s'il n'y a pas de profit au sens fort du terme, dans le travail, il y a au moins une part, un salaire. Et je crois que cet emploi des termes est significatif. Coëlette n'emploie pas le terme du bénéfice, c'est-à-dire qui s'applique aux travailleurs indépendants, mais il emploie le terme de salaire, de part, qui s'applique aux salariés ou à l'héritier. L'homme ne gagne pas, ne profite pas de son travail, mais il obtient quand même une petite compensation, une sorte de cadeau de Dieu. Nous verrons à propos du bonheur. D'autre part, la fragilité des résultats, on ne sait jamais ce qui peut arriver, la fragilité des résultats ne doit pas conduire à l'attentisme ou à la paresse. Chapitre 11, versets 1 à 6. Dans ces versets, Coëlette développe le thème suivant. L'homme ne sait pas ce qui va arriver. Alors, on pourrait en tirer la conclusion, eh bien, ne faisons rien, puisque tout risque d'être démoli par un accident fâcheux. La conclusion qu'en tire Coëlette est diamétralement opposée. Puisque tu ne sais pas ce qui va arriver, il faut tout essayer. Il faut risquer, travailler. Tu n'as pas le choix. Celui qui observe le vent ne sèmera pas, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Conclusion, dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Parce que tu ne sais pas ce qui réussira, justement, il faut travailler. Donc l'homme ne peut pas, soit par calcul, une question ici de calcul au chapitre 11, soit par dépit, par déception, échapper au travail qui fait partie de sa condition de créature. Mais si le travail est si décevant, l'homme aura-t-il un peu plus de satisfaction avec la sagesse, qui est une activité plus noble? Ne lui permettra-t-il pas d'obtenir quelques résultats? Coëlette ne nie pas la supériorité de la sagesse par rapport aux richesses. Chapitre 7, versets 11 et 12. La sagesse vaut autant qu'un héritage et même plus. Cependant, malgré cela, Coëlette a déjà répondu à propos de la sagesse. Avant même de parler du travail, il a dénigré la sagesse. Et c'est d'abord comme sage que Coëlette avoue son échec. Dès les premiers mots, n'est-ce pas, lorsqu'il dit qu'il a appliqué son cœur à connaître, chapitre 1er, lorsqu'il a appliqué son cœur à connaître et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux, il déclare déjà que c'est une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. Et l'accumulation des titres qui suit, n'est-ce pas, j'ai vu tout ce qu'il fait sous le soleil, j'ai grandi, surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, mon cœur a vu beaucoup de sagesse et beaucoup de science, cette accumulation des titres de sagesse ne débouche que sur la constatation, cela aussi, c'est vanité et la poursuite du vent. Beaucoup de sagesse, beaucoup de chagrin. Plus de science, plus de douleur. La sagesse qui dépose ici son bilan n'est pas une sagesse purement spéculative. C'est une sagesse qui est liée à la conduite de la vie. C'est une sagesse qui a aussi un aspect pratique. C'est lié aussi à l'exercice des responsabilités politiques. C'est la sagesse du roi. Et le roi est le symbole de la sagesse et de la sagesse vécue, de la sagesse opérationnelle. Moi, Coëlette, j'ai été roi d'Israël. Et le parfait indique ici l'accomplissement de la fonction royale dans le plein sens du terme. De nouveau, comme pour le travail, ce n'est pas du tout un marginal qui critique la sagesse. C'est le sage qui critique la sagesse, comme c'était le travailleur qui critiquait le travail. C'est le sage par excellence. Celui qui, dans le livre des Proverbes, a vanté les mérites de la sagesse. Celui qui, dans son activité politique, a exercé la sagesse comme nul autre. Celui qui a joui d'une réputation mondiale, une réputation internationale de sagesse. Pourquoi la sagesse est-elle vaine? La première raison qui est donnée, c'est celle de son impuissance. Chapitre 1, verset 15. Ce qui est courbé ne peut se redresser et ce qui manque ne peut être compté. Donc le sage ne peut que constater les anomalies et encore les constater imparfaitement. Il ne peut pas même en faire le compte. Il ne peut que constater les anomalies sans pouvoir y remédier et ainsi il augmente sa douleur et sa souffrance. Son sort est un peu comparable au riche qui ne peut voir que ses richesses s'envoler, le sage, lui, ne peut voir que tout ce qui va mal. Coëlette, dans ce domaine, est particulièrement sensible à l'injustice, chapitre 3, verset 16, au lieu établi pour le jugement, il y a la méchanceté, au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté, chapitre 4, verset 1 à 3, j'ai considéré toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil, et voici les opprimés dans les larmes, et personne qui les console. Ils sont en butte à la violence de leurs oppresseurs, et personne qui les console. Chapitre 8, verset 9, il parle du temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Et au chapitre 10, nous voyons une sorte de monde renversé. J'ai vu il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes élevés. Et les riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Quel est ici celui qui gouverne, comme une erreur provenant de celui qui gouverne? On pourrait penser que c'est le roi qui remplit mal sa fonction. Il me semble plutôt que c'est Dieu, car remarquez la précaution de l'Ecclésiaste, comme une folie, comme une erreur, comme si Dieu se trompait. Mais ailleurs, l'Ecclésiaste affirme qu'il ne se trompe pas, mais les choses se passent comme si il se trompait. On peut être étonné de telles constatations sur l'injustice de la part d'un roi, dont le devoir est précisément de défendre les opprimés, de faire régner la justice dans son royaume. C'est le thème qui est largement développé dans le livre des Proverbes. Le roi, c'est celui qui dissipe les méchants par son regard. Mais ici, le roi a l'air plutôt dépassé par les événements. Et l'impression qui domine, c'est celle de l'impuissance. L'impuissance de cette sagesse politique. Car la politique réserve des déceptions. Chapitre 4, versets 13 à 16. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait pas écouter les avis. Et j'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil entourer l'enfant qui devait succéder au roi et régner à sa place. Il n'y avait point de fin à tout ce peuple et à tous ceux à la tête desquels il était. Et toutefois, ceux qui viendront après ne se réjouiront pas à son sujet. C'est encore là une vanité et une poursuite du vent. Il y a bien un avantage relatif de ce changement de règne. Mais en fin de compte, on n'aura pas tellement lieu de s'en féliciter. Au chapitre 5, et au verset 7 et 8, il est question de l'injustice. Le pauvre est opprimé, la violation du droit et de la justice. Ne t'en étonne pas, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé, et au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore. Et un avantage pour le pays, à tous égards. Alors là, évidemment, il y a un problème de traduction. C'est une expression difficile à traduire, mais il semble que la meilleure traduction soit la suivante. Un avantage pour le pays, à tous égards, c'est un roi au service des champs. Des champs cultivés. Pas le champ choral. Ce passage ici semble indiquer qu'au-dessus de toute la hiérarchie des fonctionnaires qui engendrent l'injustice, il y a le roi qui est lui-même soumis à certains impératifs économiques. Il est au service des champs, au service de l'agriculture, en quelque sorte. Et les avantages et les désavantages ont l'air de se compenser. Il y a des injustices, bien sûr, mais d'un autre côté, le roi est au service de l'agriculture. En fin de compte, il n'y a pas tellement d'avantages. Les inconvénients et les avantages se compensent. De même que les avantages et les inconvénients s'étaient compensés dans le cas du jeune homme sage qui succédait à un roi vieux et insensé qui ne savait plus écouter les avis. Mais par la suite, on ne s'en félicitera pas. Autre exemple, au chapitre 9, les versets 13 à 18. J'ai vu sous le soleil ce trait d'une grande sagesse. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes en son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Très bien. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Conclusion, verset 16. La sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Verset 18. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. De même, au chapitre 10 et au verset 16, « Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. » C'est une critique à l'égard du mauvais exercice du pouvoir. Cependant, verset 20, « Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix. » En ce qui concerne les résultats, ils sont très fragiles, comme ceux du travail. Ils sont très précaires. Chapitre 10, verset 1, « Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. » Bien sûr, comme pour le travail, cela ne conduit pas Coëlette à un scepticisme radical. La sagesse existe bel et bien. La sagesse a des avantages qui sont tout à fait estimables. Et il en fait la liste au chapitre 7. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Seulement, il semble que même là, l'auteur reste assez négatif et sceptique, car il ajoute juste après « et le jour de la mort que le jour de la naissance ». Donc, bien sûr, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, mais elle est aussi très fragile. Et ce n'est qu'au moment de la mort qu'on peut savoir si on a eu une bonne réputation jusqu'au bout. Et dans le même ordre d'idées, et dans le même chapitre, il dit que le deuil est préférable au festin, que la réprimande est préférable au rire. Tout cela souligne le sort tragique de l'homme. Et après avoir vanté les mérites de la sagesse, il dit aussi, verset 6, « L'oppression rend insensé le sage et les présents corrompent le cœur. » Verset 8, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » Chapitre 7, verset 8, de nouveau, même chose, on ne sait jamais. Donc, « Mieux vaut la fin que le commencement. » Chapitre 7, verset 11, « La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. » Cependant, verset 13, « Regarde l'œuvre de Dieu, qui pourra redresser ce qu'il a courbé ?» Ainsi donc, les avantages de la sagesse, qui sont réels, sont toujours relatifs et sont toujours compensés par certains désavantages. Mais l'homme ne pourrait pas se soustraire à la sagesse, comme il ne peut pas non plus se soustraire au travail. C'est une tâche que Dieu lui a confiée. Mais les résultats restent précaires. Et de plus, c'est là peut-être l'argument le plus fort, la sagesse reste impuissante devant les questions, elle échoue devant les questions ultimes. Chapitre 7, versets 23 et 24, « J'ai dit, je serai sage, et la sagesse est restée loin de moi. » Chapitre 8, versets 16 et 17, « Même si le sage se fatigue pour trouver, il ne peut pas trouver. » Et ainsi se pose la question, chapitre 6, verset 8, « Quel avantage le sage a-t-il sur l'insensé ?» Il y a un certain avantage, mais au bout du compte, ils se retrouvent égaux devant la mort. Chapitre 2, versets 14 à 17. « J'ai reconnu qu'ils ont l'un et l'autre un même sort, et j'ai dit en mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage ?» et j'ai dit en mon cœur, c'est encore là une vanité. Et comme le travail échouait devant la mort, ainsi la sagesse aussi échoue devant ce sort commun qui ramène tous les hommes au même point, grands ou petits, sages ou insensés, et même justes ou injustes. C'est ce que nous allons voir à propos de la religion. La religion, qui est encore une activité plus noble que la sagesse, offrira-t-elle une consolation, un moyen d'échapper à cette condition de vanité? On peut remarquer que Qohélète, en rapport avec la religion, est beaucoup plus affirmatif que pour la sagesse et que pour le travail. Il dit par exemple que Dieu donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Chapitre 2, verset 26. Au chapitre 7, verset 26 aussi, il dit que celui qui est agréable à Dieu échappe, mais que le pécheur est pris. Au chapitre 8, versets 12 et 13, le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Donc il semble que la relation avec Dieu apporte des avantages certains. Cependant, elle aussi, comme toutes les activités de l'homme, n'échappe pas à la vanité. Et ceci pour deux raisons que je vais développer. D'abord parce que l'homme, dans sa piété, est aussi gagné par la vanité, qui touche toutes ses activités, et aussi parce que la justice n'est pas toujours récompensée comme on pourrait l'espérer. L'Ecclésiaste a un assez long développement sur les exercices de piété que sont la prière et le vœu à la fin du chapitre 4 et au début du chapitre 5. Et ici, la vanité se manifeste d'une part, par l'abondance des paroles, ne te hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, que tes paroles soient donc peu nombreuses, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Et la vanité se manifeste aussi par une attitude superficielle, l'attitude superficielle de celui qui fait un vœu et qui ne l'accomplit pas. Ce sont des paroles en l'air. La religion ne doit donc pas être un prétexte pour abolir la distance qui existe entre le Créateur et sa créature. Elle ne doit pas être cette tentative de l'homme pour échapper à sa condition par le bavardage religieux. La religion ne met pas l'homme au-dessus du soleil. La religion reste aussi une activité de l'homme sous le soleil. Dieu est au ciel, et toi tu es sur la terre. Bien sûr, Qohélète ne condamne pas du tout la pratique religieuse, ni la prière, ni le vœu, ni d'autres pratiques. Au contraire, d'ailleurs, ses conseils sont là pour prouver qu'il y attache une importance et qu'il veut que ces pratiques soient accomplies dans un esprit qui convienne à la majesté de Dieu et à la misère de l'homme. Mais il constate que trop souvent, la religion est une tentative d'échapper à la condition humaine, une tentative qui ne tient pas compte de la relation qui existe, de la différence qui existe entre Dieu et l'homme. Et ainsi, ces conseils sont plutôt négatifs. Et quant à nous, nous devons éviter de nous croire trop vite au-dessus du soleil. En Jésus-Christ, nous sommes bien assis dans les lieux célestes. Cependant, si nous nous croyons au-dessus du soleil, c'est là que nous sombrons dans les illusions et que nous déplaisons à Dieu. Il est remarquable de constater à quel point l'enseignement de Jésus sur la prière rejoint celui de Qohélète, puisqu'il dit qu'il ne faut pas multiplier les vaines paroles, et il caractérise cette attitude comme étant justement l'attitude du païen. C'est une attitude contraire à la crainte de Dieu que prône Qohélète. Ainsi, l'homme tout entier est sujet à la vanité, non pas seulement l'homo faber, ni seulement l'homo sapiens, mais aussi l'homo religiosus, lui aussi, est soumis à la vanité. Et Coëlette constate aussi que la piété, la justice ne sont pas toujours récompensées. Et il appelle cela aussi une vanité. Chapitre 8, verset 14. Il est une vanité qui a lieu sur la terre, c'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants, et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. Et je dis que c'est encore là une vanité. Chapitre 9, versets 2 et 3. Tout arrive également à tous, même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pour celui qui est impur, pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure, comme de celui qui craint de jurer. C'est un mal. Parmi tout ce qui se fait sous le soleil, c'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi, vers les morts. Car qui est excepté? C'est donc une vanité. Et Coëlette emploie aussi un autre mot, c'est un mal. Donc une chose anormale, révoltante, scandaleuse, qu'il arrive la même chose, ou qu'il puisse arriver la même chose, à celui qui fait le bien et à celui qui fait le mal. Et en tout cas, une chose est certaine, c'est que ça n'encourage pas les hommes à faire le bien. Chapitre 8, verset 11. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Et puis nous avons lu aussi au chapitre 9, leur cœur se remplit de méchanceté. Le cœur des fils de l'homme est plein de folie pendant leur vie. Cette folie que l'on retrouve dans le psaume 10, qui fait dire à l'insensé, Dieu ne punit pas. Évidemment, Coëlette est plus prudent avec la religion qu'avec la sagesse. Il ne dit pas que la religion est encore une vanité, mais il dénonce cette vanité dans le fait que la justice n'est pas toujours récompensée et que la méchanceté n'est pas toujours punie. Je ne pense pas que Coëlette nie la doctrine de la rétribution, car dans d'autres passages, il affirme, il dit que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Mais il constate qu'il y a trop d'exceptions et que ces exceptions sont par trop troublantes et inquiétantes, comme si Dieu se trompait, chapitre 10, verset 5, le passage que nous avons lu, comme une erreur de la part de celui qui gouverne. Et c'est dans ce contexte que se situe le conseil surprenant du chapitre 7, versets 16 et 17. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage, pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé, pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Alors, Coëlette recommande-t-il ici une sorte de juste milieu, de via media, entre la justice et la méchanceté? Alors, ne pas être trop bon, mais pas trop méchant non plus. Je ne pense pas qu'on puisse trouver dans le texte une justification de cette hypothèse. Il me semble plutôt que, par la suite, Coëlette explique un peu ce qu'il veut dire. Par exemple, lorsqu'il dit au verset 18, « Celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. » Et au verset 20 aussi, « Il n'y a sur terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. » Alors, qu'est-ce qu'être juste à l'excès ? Il semble qu'il ne puisse pas y avoir d'excès dans ce domaine, n'est-ce pas ? Puisque Dieu proclame, vous serez saints comme je suis saint. Il faut aller jusqu'au bout de l'obéissance à la volonté de Dieu. Ici, il me semble que Coëlette désigne une attitude de justice intransigeante et bornée. L'attitude de celui qui se croit juste, parfait, et qui croit qu'à cause de cela, tout va bien marcher, parce que tout est réglé comme une horloge, et que toutes les actions reçoivent immédiatement leur récompense, et qu'ainsi il faut se conduire et régler toutes les questions d'une manière absolument stricte. Cette attitude mène à la destruction. Pourquoi te détruirais-tu ? Elle mène à la destruction, d'abord parce que toute justice n'est que relative. Il n'est pas d'homme sur la terre qui soit parfaitement juste. Et ensuite, parce que la justice n'est pas toujours récompensée. Quant à être méchant à l'excès, c'est simplement la contrepartie. Dire, puisque la justice ne marche pas, alors essayons la méchanceté. Mais Coëlette dit qu'elle ne marche pas non plus. Celui qui compte sur sa méchanceté pour réussir va lui aussi au-devant de la catastrophe. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? La pensée de l'homme et l'action de l'homme oscillent souvent entre ces deux extrêmes. Entre la bonne morale qui dit que le bien est toujours récompensé et l'immoralité qui dit que seul le mal paye. Et c'est la conclusion un petit peu humoristique du topaz de Marcel Pagnol, le topaz qui, après avoir enseigné la bonne morale laïque du début du siècle, constate que ça ne réussit pas et enseigne exactement le contraire, c'est le mal qui réussit. Coëlette, lui, échappe à ces deux extrêmes que sont la propre justice et la méchanceté. Et c'est la crainte de Dieu qui permet d'y échapper. Donc ce n'est pas du tout une question de juste milieu entre justice et méchanceté, mais il est question d'une attitude lucide qui évite les illusions de justice pour s'en tenir à la crainte de Dieu. Et je crois qu'on peut peut-être établir un parallèle entre celui qui multiplie les paroles pour essayer de s'élever au-dessus de sa condition et celui qui, en quelque sorte, multiplie sa justice, oubliant qu'il n'y a pas de juste sur terre, et aussi que la justice n'est pas toujours récompensée. Les deux participent de la même illusion religieuse. Ainsi, toutes les activités de l'homme sont marquées par la vanité. Des plus ordinaires aux plus nobles. Et dans chaque cas, on peut constater que la vanité ne concerne pas seulement l'homme lui-même, et ce qu'il fait, mais aussi les conditions dans lesquelles s'exerce son activité. L'homme n'est jamais assuré d'un résultat, ni de son travail, ni de sa sagesse, ni de sa piété. Il y a donc quelque chose qui ne marche pas dans le monde. Il y a quelque chose de cassé. Et ce quelque chose provoque l'indignation de Coëlette. J'ai haï le travail, j'ai haï la vie. Si nous considérons tous les mythes auxquels l'homme se raccroche pour essayer de donner un sens à sa vie, le mythe du travail, qui est censé procurer le salut de l'homme, le mythe de la sagesse, le mythe de l'action politique, le mythe de la technique religieuse, Coëlette nous apparaîtra comme un excellent démystificateur qui va jusqu'au bout des choses. Et un démystificateur d'autant plus convaincant qu'il est concerné lui-même par sa démystification et qu'il s'en désole. Il aimerait bien qu'il en soit autrement. Et il a fait tout ce qu'il a pu pour réussir par le travail, par la sagesse. Et c'est un homme qui aime profondément la vie, qui dit « j'ai haï la vie ». Et c'est un homme qui aime profondément le travail, qui dit « j'ai haï le travail ». Il n'y a aucun malin plaisir chez Coëlette, aucune satisfaction morbide à décrire le tragique de la condition humaine, en se donnant peut-être l'illusion qu'il s'établit une certaine distance et que l'auteur, lui, pourrait échapper au tragique de cette condition. Il ne se met pas au-dessus de la condition humaine, par le recul de l'observateur, mais il y est dedans. Il est lui-même sous le soleil. Pour que notre étude reste honnête, d'abord ce n'est qu'une étape de notre étude de l'Ecclésiaste, et pour qu'elle reste honnête, il ne nous faut pas chercher à échapper à cette situation, mais reconnaître que nous aussi, même ici à Bombane, nous sommes sous le soleil, et que cette condition qui est décrite est aussi la nôtre. Toutes nos activités sont entachées, corrompues par la vanité. Mais nous pouvons aussi souligner, c'est là notre privilège, que Dieu ne nous a pas laissés seuls dans cette situation, mais qu'il y a quelqu'un qui est descendu sous le soleil, au-dessous du soleil, et qui a connu notre condition, et qui l'a vécu dans tout ce qu'elle a de tragique, de déconcertant, qui l'a vécu jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix, qui l'a vécu jusqu'au point de s'écrier « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et ainsi, le chemin du salut que nous recevons et que nous proclamons, ce n'est pas celui de l'illusion ou du mythe, mais c'est celui de la grâce de Dieu qui est venue jusqu'à nous dans les conditions qui sont décrites par Colette et qui, dans ces conditions-là, qui sont les conditions de l'homme, nous a acquis le salut et la vie éternelle.